Chers amis des cellules, bonjour. Mercredi 17 février sera le mercredi des cendres, début du carême, et l'un des deux jours de jeûne prescrits par l'Église latine avec celui du vendredi saint. Je voudrais aujourd'hui vous en dire un mot. Le jeûne, au sens strict, désigne l'abstention de tout aliment pendant un espace de temps donné. Le jeûne peut signifier aussi ce qu'on appelle la monophagie, le fait de ne manger qu'une fois par jour, de n'avoir qu'un seul repas, éventuellement une petite collation à un autre moment de la journée. L'abstinence, quant à elle, ou xérophagie, littéralement nourriture sèche, xérophagie, consiste à s'abstenir de certains aliments plus substantiels ou plus savoureux. Rigoureusement parlant, la xérophagie ne comporte que l'usage du pain, du sel et de l'eau. Mais en pratique, elle permet l'usage des légumes et des fruits. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était surtout un rite pénitentiel. Il était ainsi l'expression d'un profond repentir, accompagné d'ailleurs des manifestations traditionnelles du deuil, notamment avoir la tête couverte de cendres. Donc le jeûne, expression d'un profond repentir, en relation avec l'infidélité à l'alliance que constitue le péché. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, le jeûne était étroitement lié à l'idée de supplication. L'Israélite pieux ne pouvait concevoir une prière instante qui ne fût soutenue par le jeûne, en particulier pour demander la délivrance d'une épreuve. Il s'agissait d'humilier son âme, c'est-à-dire la faire se tenir à sa juste place, à l'inverse de l'orgueil. Donc il s'agissait d'humilier son âme pour exprimer une attitude d'abandon total et confiant. Le jeûne était le comportement typique de quiconque ne comptait plus que sur le secours de Dieu. C'était l'attitude des pauvres du Seigneur, comme on peut le voir en Esdras au chapitre 8, les versets 21 à 23. Le jeûne apparaissait comme le signe d'une intercession instante pour autrui. Troisièmement, si l'on pense aux deux épisodes du jeûne de 40 jours et 40 nuits de Moïse, c'est en Exode 34, le jeûne jouait à la fois le rôle d'une intercession pour le peuple qui avait péché et d'une préparation à la rencontre de Dieu, En tant qu'expression de dépendance et d'abandon, le jeûne disposait à la rencontre avec Dieu. Eh bien, dans l'Église, le jeûne prend son sens surtout dans son rapport au mystère du Christ. On va retrouver ces éléments de l'Ancien Testament, mais ils vont prendre leur sens dans le rapport au mystère du Christ. Le jeûne du carême, qu'on appelle aussi jeûne quadragésimal, a pour aspect essentiel d'être une commémoration des 40 jours de jeûne de Jésus au désert et de son combat contre le tentateur. Les pères de l'Église et la tradition liturgique ont vu dans le jeûne et la tentation du Christ, le Christ comme nouvel Adam, ils ont vu la réplique de la tentation du premier Adam au jardin d'Éden et comme la réparation de sa chute. Au jardin de la Genèse, suivant le conseil du serpent, Adam et Ève, en effet, n'ont pas eu confiance que Dieu voulait pour eux la vie en plénitude, la vie divine. Et ils se sont emparés du fruit de l'arbre, pensant se donner à eux-mêmes la vie. En refusant une attente et une espérance confiante en la bienveillance de Dieu, ils ont fait entrer la mort dans leur vie et dans le monde. Ils ont fait confiance au serpent qui leur disait justement que Dieu voulait les empêcher de devenir comme des dieux. « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. » Alors le regard de la femme change et elle se met à désirer ce fruit et elle va le prendre elle-même, ce fruit que Dieu avait pourtant désigné comme un fruit qui faisait mourir. Voilà que au jardin de la Genèse, la convoitise, la faim de vie, on pourrait dire aussi, oui, de l'homme et de la femme, va se détacher de la bienveillance et de la confiance de Dieu et penser que l'avenir de sa vie ne dépend que du déploiement de sa puissance. Alors il tend le bras pour s'emparer du fruit et le mange, faisant fi de l'avertissement de Dieu. Le Christ, au contraire, refuse de transformer les pierres en pain lorsque le serpent, hein, vous vous souvenez, lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent du pain. Jésus ne le fait pas, alors qu'il a faim et qu'il en a la puissance. Oui, comme Adam et Ève avaient la puissance de s'emparer du fruit de l'arbre, Jésus avait la puissance de transformer ces pierres en pain, mais il ne le fait pas. Il ne rompt pas, par une transformation magique, l'ordre des choses du monde, mais il attend du Père avec confiance la vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans cette parole de Jésus, il y a la confiance que Dieu donne la vie, et que cette vie de l'homme ne vient pas seulement de pain. Mais donc il y a vraiment ce fondement, en citant l'Écriture, que Dieu veut la vie pour l'homme, et on a confiance que Dieu prend soin de la vie de l'homme, et on ne réduit pas la vie de l'homme à simplement le fait de manger du pain. Le Christ ne met pas en doute la providence du Père. Et notons que cette confiance est discrètement récompensée, comme le souligne Saint Matthieu et Saint Marc dans leur récit. Vous avez peut-être remarqué qu'après le départ du démon, les deux évangélistes nous précisent que les anges servaient Jésus. Et le terme de service qui est utilisé désigne en premier lieu le service de la table, le service du repas. Le Christ ayant refusé de se donner à lui-même le pain en transformant les pierres en pain, sera effectivement nourri par le service des anges, ayant fait confiance à la providence du Père. Le Père Schmemann, un théologien orthodoxe cité par le dictionnaire de spiritualité, écrivait, je cite, « Au paradis, Adam a rompu le jeûne. Le Christ, nouvel Adam, commence par jeûner. Adam fut tenté et succomba à la tentation. Jésus fut tenté et vainquit la tentation. La conséquence de la défaillance d'Adam fut l'expulsion du paradis et la mort. Le fruit de la victoire du Christ est la destruction de la mort et notre retour au paradis. Il est clair que dans cette perspective, le jeûne apparaît comme quelque chose de décisif et d'une importance extrême. » Fin de la citation. Le jeûne du Christ a donc été comme une parabole en acte de toute son œuvre rédemptrice, et notre participation à ce jeûne est un moyen de communion à son mystère. Il est un moyen de participer à sa croix pour le salut du monde, et l'expression aussi de notre repentir et de notre conversion en mémoire de notre conversion baptismale, car bien que nous soyons baptisés, nous trahissons par nos péchés ce que nous avons reçu au baptême. La grâce d'aimer dans la confiance au Père. Notons enfin un élément proprement chrétien. Le jeûne s'inscrit dans la doctrine de la déification de tout l'homme, la participation de tout l'homme, corps et âme, à la vie divine. Le dogme de l'incarnation du Verbe donne un sens positif dans l'œuvre du salut à la médiation du corps. Le Christ a assumé tout l'homme, corps et âme, le faisant passer en lui de la mort à la vie. En chaque chrétien, le corps et l'âme doivent ensemble mourir à la chair, selon l'expression de saint Paul, en se souvenant que la chair, dans cette expression de saint Paul opposée à l'esprit, la chair désigne ce qui, en l'être humain, corps et âme, a été marqué par le péché, et qui se retrouve dans cette attitude, l'attitude suivante, l'autosuffisance de la créature qui voudrait atteindre par ses propres forces ce qu'elle ne peut que recevoir comme un don de Dieu. Voilà. Cet état de « dans la chair » dont parle saint Paul, c'est cette autosuffisance de la créature qui voudrait atteindre par ses propres forces ce qu'elle ne peut pourtant, normalement, que recevoir comme un don de Dieu. Juste une parenthèse sur les expressions de saint Paul. Donc, chez saint Paul, selon la chair désigne en l'homme corps et âme ce qui est marqué, déformé par le péché, et selon l'esprit désigne dans cette opposition chair-esprit chez saint Paul ce qui dans le corps et l'âme de l'homme a été renouvelé par l'Esprit Saint. Le salut de l'homme, rappelons-le, intègre son corps et son âme. Ainsi, fermons cette parenthèse, bien loin d'être un mépris de notre corporéité ou de notre corps, le jeûne n'est pas un exercice destiné à affirmer la force de notre volonté, une espèce de prouesse morale ou de victoire sur les instincts. Le jeûne chrétien est avant tout humilité de la créature, confession de son impuissance, de son abandon, de sa confiance au don que Dieu va faire. Le don de son esprit, le don de son esprit qui transfigurera le corps aussi bien que l'âme. Le jeûne, qui ne peut s'accomplir finalement qu'avec le soutien de cette grâce, le jeûne qui ne peut s'accomplir finalement qu'avec le soutien de cette grâce, le jeûne est donc aussi le signe de la déification commencée du corps humain. La déification commencée du corps humain qui échappe partiellement aux servitudes de sa condition corruptible. La présence en lui de l'esprit de vie, déjà, lui permet d'échapper partiellement à ses servitudes de la condition corruptible. Par le jeûne, les passions ne sont ni détruites, ni simplement maîtrisées par la force de la volonté, elles sont converties. Elles sont converties. Leur force et leur spontanéité sont mises au service de l'amour de Dieu. Alors, chers amis des cellules, puissions-nous nous préparer à ce temps de grâce qui va commencer le 17 février prochain. Je vous souhaite de bons échanges.